Attentif aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe-Vincent Foisy.
Il se passe beaucoup de choses en éducation. Hier, Bernard Drinville a annoncé des mesures pour améliorer les compétences, les connaissances en français chez nos jeunes. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les consultations sur sa grosse réforme se poursuivent. Réforme qui n'est pas toujours facile à faire adopter, mais souvenez-vous, il avait promis de résister contre la résistance. On va en parler tout de suite avec Marois Risky, qui est porte-parole en matière d'éducation pour le Parti libéral du Québec. Madame Risky, bonjour.
Bonjour.
Commençons avec l'annonce d'hier sur le français. On l'a dit, c'est des mesures qui semblent intéressantes, mais qui vont être peut-être longues à mettre en place. Votre réaction au Parti libéral, c'est quoi? C'est on va donner une chance aux coureurs ou on l'a déjà annoncé, il serait temps que la machine se réveille?
Ben écoutez, la semaine dernière, M. Drinville disait qu'il était en manque de oui. Alors oui, on est content qu'il se penche sur le dossier de la langue française, mais je vous rappelle que le premier ministre disait que c'était une urgence nationale, le français. Alors pourquoi attendons-nous en 2025 pour commencer à avoir un début d'idée? Mais pas juste ça, c'est que beaucoup de ces idées, nous on est d'accord avec ça. Je vous rappelle que Mme Courchesne, l'ancienne ministre libérale de 2008, en avait annoncé à peu près les mêmes mesures. Il faudrait juste que le ministère de l'Éducation ait un plan d'action. Puis hier, je siégeais avec le Conseil du Trésor qui accompagne les différents ministères. On leur posait la question, mais pourquoi que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur sont toujours en fin de peloton? Puis là, ils nous répondent candidement, mais le ministère de l'Éducation est le seul ministère qui n'a pas de plan d'action. Pardon? Le ministère qui teste le plus de gens au Québec, lui, ne se teste pas, mais pire, n'a pas de propre plan d'action pour faire des suivis des recommandations qu'on lui fait. Alors ça, c'est quand même assez particulier, je vais vous dire, mais ce que moi, je veux, en attendant, parce que 2025, c'est loin. L'an dernier, on a eu quand même 52 % des élèves québécois qui ont échoué en orthographe. Ces élèves sont rendus au cégep. En 2025, ils seront rendus à l'université s'ils décident de continuer leur parcours scolaire. Alors, que faisons-nous concrètement pour aider ces élèves qui sont rendus étudiants cégepiens? Et que ferons-nous rendus à l'université? Parce que même les professeurs du collège nous disent, les élèves que nous avons devant nous ont vraiment de la misère en français, ils ne savent pas écrire, puis ils nous disent carrément.
Est-ce que la réforme qui est en ce moment en consultation là, devant une commission parlementaire, c'est la clé, vous pensez? Parce que ça va permettre au ministre de justement avoir plus de pouvoir pour mettre en œuvre ces réformes là.
Ben écoutez, en ce moment, il y a des pouvoirs que le ministre possède qu'il n'utilise même pas qu'il devrait. Là, je vous donne des exemples. Lorsqu'on on entend des histoires qu'un enseignant a mis enceinte non pas une, mais deux élèves, je lui dis de lancer une enquête. Il dit non, je peux pas. Alors, je lui envoie les articles de la loi qui lui donnent le pouvoir de démarrer une enquête. Alors, c'est je dirais que c'est un ministre qui a des pouvoirs qui s'ignorent. Mais d'autre part, c'est que c'est la deuxième réforme de gouvernance scolaire en 3 ans. Moi, je suis d'accord qu'on a besoin des données. Mais ces données existent. Si on prend le temps de lire le dernier rapport de la vérificatrice générale du Québec, là.
Ben, elle dit justement qu'il n'y a pas de données.
Non, elle dit, non, c'est pas ça qu'elle a écrit. Puis elle l'a même dit en entrevue. Elle dit, les données existent au ministère de l'Éducation, mais il n'y a personne qui les collige. C'est elle et son équipe qui sont entrées dans leur propre banque de données pour savoir le profil des enseignants. Donc, ils ont l'information et là, ils sont en train de nous dire qu'avec plus de 1000 fonctionnaires, lorsqu'ils envoient ce qu'on appelle dans le réseau scolaire des collectes infos, ils demandent aux 72 centres de services scolaires de répondre à des questions. Les informations sont retournées au ministère de l'Éducation, mais personne ne les collige dans des dossiers Excel. C'est la VG qui le fait à leur place. C'est quand même particulier, je vais vous dire, là. Alors, pour les autres informations, à savoir les résultats scolaires, ils les ont. Est-ce qu'on peut les avoir plus tôt? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on a besoin d'une loi pour faire ça? La réponse, c'est non. On peut le faire dès maintenant, puis je devrais s'assurer qu'au moins il y a une personne au ministère de l'Éducation qui soit responsable de colliger l'information en temps utile. Pas l'an prochain. Mais d'autre part, si on veut vraiment aider là, en ce moment là, en français, là, je vais vous dire ce que moi je vois là, pour avoir fait de la suppléance dans les écoles. Là. C'est le roulement de classe. Il n'y a pas d'équipe stable dans nos écoles en ce moment.
Les profs, vous parlez. Là.
Pas juste les profs. Les profs, là, je vais vous dire, là, c'est triste de voir que dans certaines classes, il peut y avoir 4 à 5 différents enseignants durant l'année scolaire. Mais même, par exemple, l'orthophoniste, on la change d'école. L'orthopédagogue, même chose, on les déplace. Récemment, on a vu qu'on va retirer des orthopédagogues de certaines équipes pour les ramener dans d'autres classes. Donc, on retire des ressources spécialisées pour les ramener faire du général. Alors, pourquoi qu'on n'est pas capable de garder nos équipes stables? La réponse est encore dans le rapport de la vérificatrice générale. Elle indique qu'en moyenne, pour obtenir un poste régulier, ça peut prendre 7 ans. Donc, les enseignants se découragent et quittent la profession. Donc, pourquoi qu'en ce moment, là, dans les tables de négociation, on ne se donne pas comme mission, comme à l'université? Moi, j'étais professeure à l'université. Après 3 ans, j'avais mon poste permanent. Pourquoi qu'en éducation, après 7 ans, on est encore dans la précarité d'emploi?
J'ai une question encore sur la réforme en lien avec une nouvelle qui est sortie aujourd'hui dans la presse. C'est au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. On a nommé un ancien gestionnaire de l'école Saint-Laurent à Montréal, là, où il y a eu toute cette histoire là d'accusation, d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle sur 3 personnes. Et là, on a nommé cet homme-là comme gestionnaire du centre de services scolaires, le directeur général adjoint. Est-ce que justement, ça montre pas que les centres de services scolaires, des fois, font un peu n'importe quoi, puis que le ministre doit mettre l'ordre là-dedans?
Oui, mais même le ministère de l'Éducation a fait un petit peu n'importe quoi, incluant le ministre, M. Jean-François Roberge, de l'époque, et l'actuel ministre, puis je vais m'expliquer là-dessus. Ce dossier-là, je le connais très bien, pour avoir parlé avec plusieurs sources internes. Il faut savoir que le rapport qui a été hautement caviardé s'échelonne sur une période de 20 ans de climat toxique où il est écrit noir sur blanc que l'intégrité des joueuses a été compromise. Il faut aussi savoir que des gens, là, des enseignants, des intervenants sociaux ont parlé, ont dénoncé. Il faut aussi savoir que une personne qui disait avoir envoyé même une mise en demeure à la direction en copie conforme au centre de services scolaires. Ça, c'est tout ça, ça a été allégué. Mais l'enquête du ministère de l'Éducation, moi j'avais dit à l'époque et je le dis à ce jour, on ne peut pas demander au ministère de l'Éducation qui n'a pas cette expertise de faire des enquêtes en matière d'agression sexuelle et de harcèlement en milieu de travail. Il faut s'adjoindre les services d'une firme indépendante spécialisée pour ces natures d'infractions-là. Mmh. Alors, c'est ça qu'on aurait dû faire. J'ai lu ce fameux rapport caviardé. Écoutez, à ma grande surprise, il y a des gens qui n'ont pas été contactés. Et pire, on me dit même que des cadres n'ont pas été contactés. Alors, comment pouvons-nous vérifier si c'est vrai ou faux ce qu'un parent allègue d'avoir envoyé une mise en demeure copie conforme même au centre de services scolaires? Alors, moi, après ça, je me pose des questions.
Mais quoi, pourquoi on déplace cette personne-là? Ça fait un peu église catholique, là.
Ben, ça fait très ça, malheureusement, puis c'est pas juste ça. Donc, on a un rapport accablant, mais on a personne d'imputable. C'est ça, le réseau scolaire. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on a des gens qui ont dirigé un réseau qui, non seulement, ont pas été imputables à la fin pour leur inaction, puis même dans certains cas, là, d'avoir décidé, là, malgré qu'une intervenante sociale a montré un texto au directeur adjoint que le coach appelait une fille de traînée et utilisait en fait des termes beaucoup plus vulgaires que ce que j'utilise à la radio présentement, il a rien fait.
Mais justement, ça donne pas raison à Bernard Drainville de dire, ben, maintenant, il va avoir le pouvoir, il va pouvoir le dégommer parce que le centre de services scolaires n'est pas capable de prendre sa décision.
Mais non, parce que Bernard Drainville, ce même ministre aujourd'hui, prend le DG de Marguerite Bourgeois, Dominique Bertrand, alors que j'avais demandé sa suspension de temps d'enquête. J'ai demandé sa suspension. Il a fait une promotion, il a rendu son conseiller stratégique spécial et la rumeur veut qu'il se renomme à la tête de l'Institut national. Tout va bien en éducation.
Bon, Marois Risqué, les consultations se poursuivent aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un en arrière de vous qui vous appelle, donc on vous laisse retourner à d'autres tâches. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
Merci beaucoup.
Au plaisir, au revoir.